Vous le situez où, votre niveau de 5e en maths et en français? Allez, un petit test. On définit l'expression suivante. A égale x moins 3y plus 7. Exprimez A en fonction de x lorsque x égale y. Je vous laisse chercher et je passe au français. Dans la phrase suivante, Pythagore a dit, deux points, mon ami est un autre moi-même. Expliquez l'emploi des deux points qu'introduisent-ils comme sens logique. Des difficultés? Rassurez-vous, c'est le cas de pas mal d'élèves français. Rien de grave, mais comme le dernier test PISA montre une dégradation de la note de la France, le gouvernement veut changer la donne et instaurer des groupes de niveau au collège en 6e et 5e dès la rentrée 2024. Et là, du côté des enseignants, ça coince fortement. Mais pourquoi? C'est Laurence Théo, journaliste au service France de RFI et habituée des questions scolaires, qui m'aide à mieux comprendre tout cela dans cet épisode. Je vous dois quelques explications avant de rejoindre Laurence. PISA d'abord, c'est ce test international mené par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, tous les 3 ans. Son objectif est d'évaluer et de comparer les performances des élèves de 15 ans dans différents pays. Et là, autant vous dire que dans le dernier classement qui remonte à 2022, la France, si elle reste dans la moyenne, ne figure pas dans le peloton de tête des acquis en maths, en français et en sciences. Dès cette publication, Gabriel Attal, l'actuel Premier ministre, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé un grand plan, un choc des savoirs, a-t-il dit, pour réformer l'école. Et dans ce plan figurent les fameux groupes de niveau. Des groupes rebaptisés « groupes de besoins ». Mais l'idée ne passe toujours pas auprès du corps enseignant qui multiplie les grèves et manifestations. C'était encore le cas le 2 avril dernier.
Oui, on est là surtout pour les groupes de niveau. C'est le coup de grâce en fait, ces groupes de niveau. Ça fait des mois, des années qu'on est maltraités. Mais là, pour la première fois, on s'en prend vraiment aux élèves. Là, c'est même plus nous, ce sont les élèves avant tout qui vont trinquer de cette mesure absolument injuste et abominable, et d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue sociétal.
Bonjour Laurence.
Bonjour Alexandra.
Toi, tu étais dans cette manifestation du 2 avril.
Il y avait de l'ambiance.
Il y avait de l'ambiance. Là, c'était à Paris, mais c'est vrai qu'il y a eu des rassemblements un petit peu partout dans les villes de province en France. Cette enseignante que l'on a entendue, elle dit « cette réforme est injuste ». Alors, elle parle évidemment des groupes de niveau. Ça consiste en quoi?
Alors, les groupes de niveau, c'est la mesure phare du choc des savoirs. Et elle concerne, tu le disais, les élèves de 6e et de 5e, en français et en mathématiques. Il s'agit de classer les élèves selon leur niveau. Et même si la ministre, tu le disais, elle est revenue sur le terme un peu fâcheux de niveau, ce sont des groupes tout court, 15 élèves, pas plus pour les élèves les plus en difficulté. Et ensuite, il y aura le groupe des moyens et le groupe des forts. Alors, ces élèves seront rassemblés en classe entière en français et en mathématiques au maximum pendant 10 semaines, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'ils pourront être aussi bien un jour ou alors 10 semaines, mais pas plus. Selon leur progression, les élèves pourront changer de groupe durant l'année. Alors peut-être qu'on peut s'interroger sur qui va composer ces fameux groupes. Eh bien là, le ministère souhaite qu'elle s'appuie sur l'analyse par le chef d'établissement et les équipes pédagogiques.
On est passé de groupe de niveau à groupe de besoins. C'est
à
quoi
l'idée?
C'est à groupe tout court. L'idée, c'est de temporiser parce que déjà le mot groupe tout seul même fait un peu peur. En termes, il y a les forts, les moyens, les faibles. C'est ça qui fait peur.
En tout cas, bien sûr, on voit qu'il y a un rétropédalage et que cette idée d'en groupe, on entend classement. Et effectivement, la ministre, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'elle est pas convaincue par cette mesure. Donc là, on parle de groupe, tout court.
Alors la ministre, c'est Nicole Belloubet. Comment elle justifie l'avantage de ces groupes de niveau?
Alors, en fait, je te reprends tout de suite, Alexandra, quand tu dis la ministre. Il faudrait dire le ministre, puisque cette mesure a été ordonnée par Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre et éphémère ministre de l'Éducation. Donc, à vrai dire, Nicole Belloubet n'est pas favorable à ce classement. C'est pour ça qu'elle préfère trouver d'autres adjectifs comme groupe de besoin. C'est un peu le ventriloque de Gabriel Attal. Et elle explique que cette méthode apportera, on peut le comprendre, plus de soutien. Et puis, forcément, si on a un petit groupe, eh bien, il y a un apport individuel. Donc, elle s'appuie là-dessus.
Donc, si on écoute la ministre, c'est pour aller vers le mieux, pour le bien-être des élèves. C'est visiblement pas ce que pensent les enseignants. Et j'imagine aussi que tous ces groupes, ça nécessite évidemment plus de profs pour pouvoir les encadrer. Est-ce que là, il y a déjà un plan qui est mis en place avec des embauches qui sont prévues ?
Alors non, alors le ministère a quand même réfléchi et d'ailleurs il est assez honnête hein, puisqu'il dit que la mise en place du dispositif nécessite 1150 professeurs de français supplémentaires et autant de mathématiques. Alors que le métier d'enseignant connaît, comme tu le sais, une grave crise d'attractivité.
On n'a plus assez de profs.
On manque de professeurs. Dans la manifestation du 2 avril, plusieurs professeurs étaient stupéfaits, je les cite, on ne sait même pas si on aura suffisamment d'enseignants pour la rentrée prochaine. Or, on nous demande d'accompagner des élèves en petits groupes. La question des moyens, d'ailleurs, il y a très peu de réponses apportées par le ministère, puisque dans la note que j'ai pu voir, dans la note du journal officiel, seuls les professeurs des écoles sont cités comme potentiels viviers. Et on parle aussi de professeurs retraités, c'est te dire.
Ok, donc alors, des professeurs à la retraite, des professeurs des écoles, alors qu'on sait aussi qu'au niveau du primaire, c'est un petit peu compliqué. Oui, tout ça, cette réforme à mettre en place pour la rentrée 2024, effectivement, les enseignants ont un peu du mal à y croire.
Ils parlent d'usine à gaz.
Parce que le doute, évidemment, c'est aussi sur l'organisation, le fonctionnement global de ces groupes. Alors, ce n'est pas le principal grief de tous ces professeurs, de tous ces enseignants contre ce plan qui s'intitule « Le choc des savoirs ». Ce qu'ils contestent, c'est l'idée même de groupe. Pourquoi ?
Oui, là, tu touches à la question essentielle. Les enseignants refusent de trier les élèves car ce n'est pas leur mission. Ils disent « on n'a pas fait ce métier pour ça ». Et surtout, les enseignants ont peur du tri social puisque les élèves les plus faibles sont souvent issus des classes les plus défavorisées. Alors, ils dénoncent une stigmatisation des élèves. « Ah ben, toi, t'es mauvais. Ah, t'es dans le groupe des mauvais, toi. Moi, je suis dans le groupe des forts. » Donc, il y a aussi cette idée d'assignation à résidence. Une enseignante me disait que parfois, un élève fragile va se révéler grâce à une pédagogie innovante. Eh bien, avec ces groupes de niveau, ce ne sera plus possible. Ce professeur de français parle même de mouroir pédagogique.
Ils ont la certitude de ça parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, vu comme ça, ces groupes de besoins, appelons-les comme ça pour pas dire groupe de niveau, ça pourrait être un plus. Tu es en difficulté, je te prends à part, je t'explique d'une manière différente et tu reviens dans le groupe après. Est-ce qu'ils ont des preuves pour avancer que ça ne marche pas ?
Alors d'abord, je vais te répondre et on va y revenir bien sûr, mais ils croient, ces professeurs, à la mixité scolaire, au partage, ils croient au mélange. Les élèves les plus forts vont aider les plus faibles. Il y a même du tutorat et il y a une dynamique de classe. Alors, tu posais une très bonne question. Après tout, on pourrait penser qu'en s'intéressant à un petit groupe, eh bien, on va le faire mieux progresser. Et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout contre les petits groupes. Je vais y revenir après. L'épreuve qu'ils ont, puisque tu me posais la question, c'est la recherche. Toutes les recherches en sciences de l'éducation montrent que ces regroupements n'ont pas d'effet positif sur les apprentissages, ni pour les élèves du groupe fort, ni pour ceux du groupe faible. Et au contraire, ils contribuent à accentuer les inégalités sociales de réussite scolaire.
Du coup, ils préconisent quoi ? Parce que l'idée, évidemment, c'est de faire avancer tout le monde. Si on n'aide pas par petits groupes les plus faibles, alors c'est vrai qu'on a tendance à moins penser aux plus forts.
C'est vrai.
Mais si on n'aide pas ceux qui sont un peu moins bons, on va dire, pour les emmener vers les plus forts, qu'est-ce qu'on fait ?
Les enseignants préconisent la mise en place de groupes de besoins. Donc, ils ne sont pas contre les groupes. On sait bien que si on travaille en petits groupes, eh bien, c'est mieux que d'avoir des classes à 30 élèves. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la France est la championne d'Europe pour les classes surchargées. Hein, on a le plus de classes surchargées.
Ça aussi, ça fait partie du combat des classes avec moins d'élèves. Là, on est en moyenne entre 35-40 pour certains établissements.
Exactement. Et de fait, s'il y a moins d'élèves dans les classes, là, on aura peut-être plus cette notion de petit groupe. Hein. En tout cas, en l'état, les enseignants préconisent la mise en place de groupes de besoins flexibles et temporaires sur des compétences ciblées. Je vais te donner un exemple, ou plutôt c'est un professeur de français qui me l'a donné, que si, par exemple, les élèves ont 4h30 de français par semaine, on pourrait consacrer une heure où il y aurait deux professeurs pour s'occuper des élèves en demi-groupe.
Là-dessus, tout le monde est d'accord, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'enseignants dans les rues. Le 2 avril, il y avait eu une manifestation avant, le 19 mars. Est-ce qu'il y a des syndicats dans l'enseignement qui, au contraire, seraient pour cette réforme?
Alors, le SNALC, hein, qui est un syndicat donc, du secondaire, est pour les groupes de niveau, parce que Jean-Rémy Girard, que j'ai pu interviewer, hein, le secrétaire général, explique, Alexandra, qu'il y a des grands écarts. Il dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a aujourd'hui dans des classes des élèves qui ont des difficultés de déchiffrage, qui n'arrivent pas à lire, et d'autres, au contraire, qui lisent les classiques pendant les vacances? Donc, il dit qu'il faut trouver un système pour s'adresser aux élèves en difficulté. Donc, le SNALC est pour les groupes de niveau, mais il y a une telle difficulté, hein, on l'a vu tout à l'heure, dans l'organisation, le manque de moyens, le manque de professeurs, qu'il refuse d'appliquer cette mesure avec les moyens qu'on a aujourd'hui.
J'ai l'impression d'entendre ce discours en fait depuis des années et qu'il n'y a pas un ministre de l'Éducation qui arrive à trouver une solution, en tout cas des solutions qui satisfassent tout le monde. Alors moi, il y a autre chose aussi que j'ai remarqué et qui ressort dans les interviews que tu as faites de tous ces profs, c'est la notion de faire société. Il y a l'enseignante que l'on entendait au début qui le disait, et puis cet autre prof également.
Nous, on veut maintenir des classes hétérogènes parce qu'on croit que cette mixité, alors déjà qui est quand même mis à mal, hein, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, notamment à l'époque de notre ancienne ministre, de la ségrégation scolaire entre le public et le privé. Donc on sait bien qu'il y a déjà une mixité qui est quand même assez relative dans l'école publique. Mais malgré tout, on reste attaché à cette mixité et on croit vraiment que tout le monde peut réussir. Et c'est ça qu'on veut continuer à mettre en place dans nos classes.
Laurence, les valeurs du vivre ensemble, accepter les différences de l'autre au-delà de l'organisation, des salaires, est-ce que c'est vraiment quelque chose aussi que veulent défendre ces enseignants?
Oui, tout à fait. On est là aussi hein, au cœur de ce qu'ils défendent. Ils posent une question, ils disent « mais s'il n'y a plus de classe hétérogène, s'il n'y a plus cette notion de classe, quand est-ce que les élèves vont se rencontrer ?» Ils sont pour la mixité, ils disent que c'est une richesse. Il s'agit pour l'élève de rencontrer l'autre, celui qui est différent. C'est défendre le collectif, c'est faire société, comme tu le disais. Et puis c'est tout simplement vivre ensemble quand on sait hein, que la mixité sociale est déjà mise à mal. On ne va pas développer la carte scolaire, mais d'un mot, un enfant est obligé d'aller dans le collège, dans l'établissement proche de son domicile. Or, si vous vivez dans une banlieue défavorisée, eh bien, vous serez affecté dans le collège classé en réseau d'éducation prioritaire. Et puis, ce sera l'objet d'un autre épisode, Alexandra. Il y a des élèves scolarisés dans le public et puis d'autres dans le privé.
C'est
et
la
là,
fameuse
ça fait
guerre.
Toute la différence.
C'est la fameuse guerre publique-privée et celle-ci, elle dure aussi depuis de nombreuses années et elle n'a pas fini. Laurence, dans l'arrêté qui a été publié donc au Journal officiel hein, le 17 mars sur ce choc des savoirs, est-ce qu'il y a d'autres mesures également qui sont susceptibles de faire polémique, qui font polémique?
Oui, il y a le retour au redoublement et là aussi les études montrent que ça n'est pas efficace. Et puis l'obtention du brevet comme sésame pour passer au lycée. C'est-à-dire que si on n'a pas ce brevet, eh bien, l'élève ne pourra pas entrer en seconde.
Le brevet qu'on passe donc à la fin de la classe de 3e et qui permet aux élèves qui ne vont pas continuer dans la filière classique mais s'orienter ailleurs d'avoir en premier lieu un diplôme. Donc si j'ai bien compris, il y a vraiment une réelle inquiétude de la mise en place de ces groupes, de cette réforme. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, ce malaise dans l'éducation nationale? Évidemment, il ne date pas d'hier. Toi qui suis ces dossiers depuis plusieurs années, est-ce que tu as le sentiment que l'abattement des enseignants, il est plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques années?
Oui, sans doute plus fort. Les professeurs se disent fatigués des réformes qui se succèdent d'année en année, sans continuité pédagogique. On pense bien sûr à la réforme du baccalauréat voulue par Jean-Michel Blanquer. Et puis, il faut préciser que trois ministres se sont succédés en quelques mois. Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre, Amélie Oudéa-Castéra, avec toutes les polémiques, et récemment Nicole Belloubet. Ce sont des mauvais signaux. La réforme du choc des savoirs, et j'ai l'impression que c'est la réforme de trop. Et cette mesure concernant les groupes de niveau ne passe pas. Les enseignants s'impliquent beaucoup pour leurs élèves. Dans la manifestation, par exemple, j'ai vu une pancarte assez émouvante, quelqu'un qui tenait une pancarte « J'aime mes élèves » avec un gros cœur dessiné. Alors, ces professeurs-là s'investissent. C'est un métier difficile et ils ont l'impression de ne pas être consultés, de ne pas être écoutés. Voilà, on applique des mesures, on lance des réformes sans les consulter et on leur dit à vous de vous débrouiller. Pour l'organisation, pardon de l'expression un peu familière, mais c'est vraiment démerdez-vous. Donc, on a entendu hein, cette enseignante. Qu'est-ce qu'elle disait, Alexandra? C'est le coup de grâce.
C'est le coup de grâce, il me semble.
C'est ça qu'elle a dit. Donc là, j'ai vraiment senti une colère et plus que ça, parce que bon, la colère, il y a de l'énergie, il y a une forme de désespoir.
Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, d'être passée m'expliquer un petit peu tout ça dans Témoins d'actu.
Merci à toi.
Bon, et puis pour tous ceux qui s'interrogeaient ou qui n'ont pas eu le temps de chercher sur la petite équation du début de l'épisode, sachez que A est égal à moins 2X plus 7 pour le français. Je vous laisse chercher, ce serait un petit peu trop long à expliquer ici. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre appli Pure Radio. À très vite.